Bonjour à vous Bruno, mais j'ai comme invité un grand présentateur de la télévision italienne, je veux dire de la télévision publique, et il me dit qu'il lui est arrivé de commencer avec 40 minutes de retard, notamment à cause de la publicité.
Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
Survivre à Pompéi.
Poignant, ce sont ces moulages des victimes, dont les corps désintégrés n'ont laissé que les formes préservées dans les cendres qui les ont recouverts. Hommes, femmes, enfants, et même animaux.
En 79, le piège s'est refermé sur Pompéi et Herculanum. Le Vésuve semblait tout attiré vers sa gueule. Les routes encombrées des pierres qu'il rejetait ne permettaient plus de fuir, la mer était impraticable. De tous ceux qui ont été ensevelis sous l'effondrement des bâtiments, il restait des squelettes. De tous ceux qui ont été recouverts de cendres, l'empreinte de leur corps. Combien de morts? Les estimations de la démographie de Pompéi la Marchande aux populations mêlées varient entre 8, 10 ou 20 000 habitants. Herculanum, plus aristocratique, était plus petite. Il faut tenir compte aussi des installations des ports voisins et des villas qui se tenaient en promontoire au-dessus des plages noires. Chaque maison retrouvée et explorée par les archéologues raconte une histoire interrompue en un instant qui révéla souvent la vraie personnalité de chacun. Ici, la mort saisit un homme d'affaires alors qu'il cherche coûte que coûte à récupérer ses créances. Là, un père qui, lui, ne songe qu'à protéger sa femme ou son enfant qui s'asphyxie en leur voilant vainement la tête de son vêtement. Nous avons en face de nous des corps encore en action. La mort a saisi le vif, mais l'énergie du vif est encore là. De Pompéi, Théophile Gautier tirait cette leçon qui vaut encore « Rien ne meurt ». Tout existe toujours. Nulle force ne peut anéantir ce qui fut une fois.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Alberto Angela, bonjour.
Bonjour à tous.
3 jours à Pompéi, c'est une nouvelle publication sous votre signature chez Payot. Alors j'ai dit, grand présentateur de télévision italienne, c'est vrai, 40 minutes de publicité à cause de la publicité. 40 minutes de retard à cause de la publicité, vous exagérez quand même.
Non, il y avait aussi un programme qui est en direct. Quand il y a des directs, on n'arrive pas à...
Parce que vous êtes une grande machine à concevoir, des grandes émissions, des livres qui ont aussitôt beaucoup de succès en Italie et également en France. Mais... j'allais vous dire, Alberto Angelas, que ce qui vous caractérisait, c'était la retenue en même temps. Quand on va parler de Pompéi, vous direz, attention, modestie, réserve, pas de bavardage.
Absolument. Quand on se trouve à Pompéi, on se trouve dans une ville qui s'est arrêtée dans le temps. Ce n'est pas un site archéologique. Les sites archéologiques, d'habitude, c'est des monuments, des tombeaux, des temples qui se sont écroulés dans le temps. Ils ont été abandonnés. C'est la nature, le temps qui a sévi. Tandis que dans Pompéi, tout est intact. On rentre dans les chambres, on imagine que les gens soient là, dans une autre chambre. Et cette sensation incroyable commence à te faire penser. Mais il ne faut pas que tu voyages trop avec l'imagination. Il faut que tu restes les pieds par terre, tu regardes les fresques, tu comprends ce qui est arrivé dans une chambre, dans une autre, et ce qu'on a trouvé du point de vue archéologique, les objets, les corps, t'aide à rester dans un encadrement bien précis. Et donc, tu fais pas de l'imagination, c'est de l'archéologie, de la science, de l'histoire.
Pas besoin, donc, comme dans beaucoup de films, de fiction sur Pompéi, que vous critiquez de laisser galoper son esprit. Il faut être dans la réserve.
Absolument. Il faut être des historiens, des archéologues, des chercheurs, des savants, et pas trop de poètes. C'est-à-dire que là, je fais un exemple pratique. Tout le monde connaît Pompéi par son énorme volcan qui était là, à quelques kilomètres. Non, il n'y avait pas de volcan. Les Pompéiens ne voyaient pas de volcan, ça n'existait pas. Le volcan qu'on voit aujourd'hui a commencé à croître à partir de ce jour. Il est né ce jour-là.
D'où leur difficulté à lire ce qui allait leur arriver. Documents archéologiques, Il y a aussi des textes, et notamment le fameux texte de Pline le Jeune, qui raconte le comportement de son oncle, Pline l'Ancien, amiral de la flotte, qui était basé à ce moment-là à peu de kilomètres de Pompéi. De nos jours, ce serait, vous écrivez ceci de Pline l'Ancien, un chercheur, ou bien, compte tenu de son éclectisme et de sa capacité à aborder de manière rationnelle à peu près tous les thèmes importants, ce serait un excellent journaliste de vulgarisation à la télévision, pourquoi pas à la RAI, en prime time, qui sait. Alors là, vous manquez de modestie.
Non, simplement, c'est quand un homme est curieux et il a le, disons, le domaine de la recherche dans sa tête, nous sommes tous égaux. Alors, j'imagine Pline l'Ancien comme Armstrong sur la Lune, comme même un journaliste dans un scénario de guerre. C'est-à-dire, il essaie de comprendre. Dès qu'il voit jaillir loin, à 30 kilomètres, cette colonne de gaz et de cendres, il prend un bateau et il veut aller voir.
Le texte de Pline le Jeune.
Ma mère lui apprend qu'on voit un nuage extraordinaire par sa grandeur et son aspect. Il venait de prendre son bain de soleil puis d'eau froide. Il avait fait un repas léger tendu sur son lit et y travaillait. Il demande ses chaussures, monte à l'endroit d'où l'on pouvait le mieux contempler le phénomène en question. Une nuée se formait. On ne pouvait bien voir de loin de quelle montagne elle sortait. On sut ensuite que c'était du Vésuve, ayant l'aspect et la forme d'un arbre et faisant penser surtout à un pin. Mon oncle trouva tout cela curieux et bon à connaître de plus près, en savant qui était. Il fait mettre en état un bateau liburnien. Il m'offre, si cela me plaît, de venir avec lui. Je lui répondis que je préférais rester à mon travail, et précisément, c'était lui qui m'en avait donné la matière. Il sortait de chez lui, on lui remet un billet de Rectina, femme de Cascous. Effrayé du danger qui la menaçait, sa villa était en bas, et elle ne pouvait plus fuir qu'en bateau. Elle suppliait qu'on l'arrachât à une situation si terrible.
Rectina, retenez bien, ce nom va y revenir. Parce que votre livre, il est explosif, enfin, il explose en fragments, il y a des dizaines de personnages. On va suivre, si vous le voulez bien, Alberto Angela, le destin de Rectina. C'est une aristocrate, puisqu'elle est amie de Pline.
Oui, elle fait partie de l'aristocratie. C'est ce qu'on appelle une matrone, matrona. Alors qu'avec ce terme, on pense toujours à une femme qui est quand même qui a du poids, disons. Et finalement, non. Quand on parle de matrone, on indique une jeune femme, une femme qui appartient à l'aristocratie. On ne connaît pas le visage et la forme du corps de Rectina. J'imagine que c'était une belle femme. Probablement, elle avait 30 ans, peut-être, ou même, ouais, plus ou moins, entre 25 et 35, 40, plus ou moins, 25-35. Elle était raffinée. Elle faisait partie de l'aristocratie d'Herculaneum et de Pompéi. Elle avait des connexions, elle connaissait. C'était une femme importante.
Mais non seulement vous dessinez sa silhouette, mais vous la peignée en couleurs. Alors, comment faites-vous?
Ben, naturellement, je me base sur les fresques et ce qu'on a découvert sur les habitudes des Romains et des femmes romaines. Alors, par exemple, elle est probable que ses cheveux changent. Je ne dis pas tous les jours, mais enfin, presque. Les femmes romaines avaient l'habitude de se coiffer avec des perruques. Et elles avaient d'habitude des perruques de cheveux roux, elles étaient blondes ou elles étaient noires. Et c'était un peu la mode qu'il y a eu dans les années 60-70 chez nous. Et donc c'était une femme sûrement avec la peau assez blanche, parce que les aristocrates ne prenaient pas le soleil. Elles avaient même des parapluies, des umbrelles, c'était pour faire de l'ombre, c'était le nom même qu'il te dit. Et très raffinée, sûrement elle avait beaucoup d'or sur elle. Alors l'or, naturellement, c'était ces bracelets en forme de serpent, etc. Tout ce qu'aujourd'hui, on aurait été frappé par le parfum, par l'or, par son regard, par ses méthodes très, très, disons, d'aristocrate. Mais là, elle est vraiment apeurée, elle est dans la panique.
Non, on n'est pas encore là. On est à J-3, J-4. Elle donne un banquet dans sa villa, dont on peut imaginer la couleur des murs. Vous dites très joliment que les murs sont très chargés et que s'ils arrivaient dans nos appartements d'aujourd'hui, ils se cogneraient en revanche à tous les meubles.
Absolument. C'était le contraire d'aujourd'hui. C'est-à-dire, un Romain aurait dit, on dirait d'être dans un hôpital, vos parois sont complètement blanche, et vous avez plein de meubles partout. Tandis que nous, c'était le contraire. C'était des fresques et des couleurs partout, et peu de meubles.
Et chacun sait qu'on mangeait allongé. Alors, vous décrivez un banquet que donne peu avant la catastrophe Rectina dans sa villa. Alors, comme nous aussi, on conçoit des petites machines, un peu à votre façon. On l'a glissé, cette description de banquet. C'est un banquet d'hommes, c'est pas vraiment à Herculanum. C'est à Rome, mais vous nous pardonnerez.
J'aime dîner en me restreignant, mais cette journée entre toutes est très spéciale, alors je m'autorise une exception. Et j'ai même une surprise pour toi. Deux d'ailleurs, pour être précis. Talus ! Qu'on apporte le gâteau.
Mais il était prévu à la fin du
repas. Je ne peux plus attendre, il faut que la famille le découvre. Tu sais ce que je te réserve encore ? Aristarchus d'Athènes. On prétend que c'est le plus grand conteur de notre époque et je lui ai demandé de nous préparer un discours. Cet homme a ce qu'on dit, il fait rêver en plus. Tu sais, Marcus, on raconte qu'il écrit des hymnes en prose. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une forme dont je n'ai jamais entendu parler. Encore une invention de ces Grecs, ils inventent toujours quelque chose. Pourquoi sont-ils si intelligents? Ah, Aristarchus, sois le bienvenu. Nous t'écoutons. Allons, on commence.
Je suis prêt à commencer, mais quand tes invités auront terminé.
Ah oui, bien sûr, pardon.
Au banquet de Rectina, qui est un banquet donné par une matrone, un poète aussi, qui n'est pas un poète grec. Vous l'avez identifié, ce poète ?
Oui, disons que à l'intérieur de l'aristocratie, c'est-à-dire, si dans chaque banquet, si on regardait à aujourd'hui quelle est la différence entre un dîner avec des amis ou un dîner important, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de poste télé, il n'y avait pas de... Donc, c'était tout humain. Il y avait des poètes qui te récitaient des vers, il y avait une petite orchestre. Et là, naturellement, moi, dans ce livre, je mets beaucoup de personnages qui ont existé. On le sait avec des textes, on le sait avec des inscriptions, on les connaît. Et naturellement, ce qui manque, et ce qui est important de dire, c'est les connexions. Par exemple...
Mais c'est vous qui les établissez, alors?
Oui, disons, il faut absolument que les choses soient vraisemblables. On ne connaît pas les détails. Par exemple, je fais un exemple, les archéologues ont trouvé une malle avec l'archive d'un banquier. Il y avait des contrats de dizaines et dizaines de Pompéiens. On ne les connaît pas, mais on connaît, disons, le business qu'ils faisaient. C'était une chose secrète qui, aujourd'hui, tout le monde connaît.
Alors là, il y a un poète dont on sait le nom, Caecius Bassius. Vous l'imaginez au banquet? Oui. Et ensuite envoyé à Pompéi par Rectina dans un hôtel, 5 étoiles, exprimé, voilà. Dites-vous. Et d'ailleurs, elle va elle-même, le lendemain du banquet à Pompéi, pour voir un médecin. Alors, il y a une inscription à Herculanum et non pas à Pompéi sur ce médecin qui s'appelle Apollinaris, encore un nom grec. Apollinaris Medicus Titi Imperatori. Voilà. Hic cacavit bene. Hic cacavit bene. Il a chié là,
ouais,
c'est
exactement.
Ça, oui. Bon, mais cette inscription, elle est à Herculanum, et vous me mettez le médecin, Apollinaris, à Pompéi, recevant Rectina.
On sait qu'il y avait une maison à Pompéi où il y avait un médecin, un chirurgien, parce que c'était plus ou moins la même chose. Et donc, j'imagine cette rencontre avec ce grand expert, disons, Apollinaris, qui a demandé à un de ses collègues de pouvoir recevoir une patiente VIP, c'est-à-dire de l'aristocratie, d'une façon discrète dans son cabinet. Et donc, c'est là qu'ils se rencontrent.
Et ça vous permet de parler du mariage.
Voilà.
Et puis, plus savamment encore, Alberto Angela, du taux de fécondité.
Ouais.
Chez les citoyens romains.
Oui.
Qui est dangereusement en baisse.
Exactement. Parce que c'est une société très semblable à la nôtre. Les mariages, il y en a toujours de moins en moins. Il y a beaucoup de divorces. Et on ne veut plus faire des fils. Remarque, on adopte des esclaves, hein, on adopte des personnes. Mais faire un fils pour une femme est extrêmement dangereux, surtout pour une femme d'une société, de l'autre société. Il faut remarquer que l'espérance de vie d'une femme romaine est environ 29 ans, à cause des accouchements et des infections liées aux accouchements.
D'où le rôle qu'on donne aux esclaves qu'on a franchis de renouveler la population. Pendant ce temps, J-2, les premiers signes avant-coureurs de la catastrophe sont lisibles à qui s'aller voir. Le Vésuve n'est pas présent, non. Mais il y a eu un séisme peu d'années auparavant. Et l'immobilier à Pompéi est touché d'ailleurs par les secousses sismiques.
Absolument. Les Romains connaissaient cette zone côtière comme la région de la terre qui tremble. Ils ne savaient pas, c'était le magma qui poussait, qui montait. C'était un compte à rebours, mais ils ne le savaient pas. Ils n'avaient pas une société scientifique, ils ne savaient pas ce que c'était. Mais il y avait des tremblements de terre continuels. Il y en avait un qui a été dévastant 16-17 ans à l'avance. Et ils étaient en train de reconstruire le forum, en plus, à l'intérieur de Pompéi. Et les jours à l'avance, il y avait eu des tremblements de terre, mais il y avait aussi des petits détails qui étaient qu'on pouvait percevoir. Une porte qui ne s'ouvre pas, disons l'eau du puits qui commence à descendre, le niveau commence à descendre parce que le magma aspirait l'eau, la vaporisait, donc l'eau de la couche phréatique commençait à s'abaisser.
Donc, est-ce que l'esprit était à la bagatelle comme on le pense couramment? Ici, le chanteur Georges Chelon.
Je vous écris cette lettre de ce qui fut Pompéi, à l'heure où le jour va naître, quand personne ne vient ici. Je vous écris le silence de ces pierres de douleur, à 2000 ans de distance, elle vous lègue encore la peur. J'imagine un jour de noces, la mariée s'appelle Julia, 16 ans, encore une gosse, mais par l'amour, femme déjà. Je vous envoie son sourire auréolé de laurier, pour le meilleur et le pire. Le pire n'a pas tardé, Pompéi, Pompéi. On s'aimait bien à Pompéi, on savait apprécier la vie. Comme on riait, comme on chantait, comme on buvait, comme on dansait. Pompéi, Pompéi, ville des amours et des plaisirs, était-ce un endroit pour mourir? C'est de là faisait l'amour. Quand la nuit chassa le jour.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Alberto Angela chez Payot, son nouveau livre, Trois jours à Pompéi. Alors vous appelez à la retenue devant la contemplation des morts de Pompéi. Et quand vous écoutez les touristes, vous avez fait beaucoup de tournages pour la télévision, oui. À Pompéi. Vous êtes un peu agacé par les remarques sans pudeur, ouais, des absolument. Touristes.
Bah, et finalement, quand on voit ce qu'on appelle les corps, les moulages, je vois beaucoup de personnes qui font qui prennent des clichés, les selfies qu'on appelle comme ça. Et puis ils rient, ils regardent les positions, ils sont. Mais c'est des gens, c'est pas des statues, c'est des gens qui sont en train de mourir. C'est-à-dire ce qu'on voit, c'est un moulage de ce qui reste d'une personne à l'instant même où la vie l'a quitté. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup de respect. Devant vous.
Et le jeu des touristes devant les inscriptions qu'on leur traduit, ou devant les symboles, les érections de phallus qu'on trouve un peu partout, alors qu'ils font galoper
les esprits. C'est la vie, c'est bien. Les Romains, ils aimaient la vie, ils vivaient la moitié de notre vie, disons 40 ans un homme, donc vous imaginez, mais ça avait vraiment savouré la vie à tout effet. Il faut dire qu'on a une idée des Romains comme une population qui se laissait aller à une espèce de folie sexuelle à la fin des banquets. C'est absolument faux. Ils étaient très raffinés, par exemple, on prenait du parfum, on buvait du parfum pour donner des baisers parfumés. Mais c'était très très raffiné. Et quand on voit des fresques, par exemple, dans les lupanars, là, bon, c'était le fameux lupanar qu'on voit à Pompéi, c'était un lupanar pour esclaves et même pour marins. La haute société, bon, les prostituées venaient chez toi. Tu n'allais pas dans les lupanars.
On vous épargne une description de lupanar.
Non, mais je peux seulement ajouter une chose. Ils connaissaient déjà le Viagra. Ils connaissaient la pilule du jour avant, du jour après, ils avaient les sex toys, ils avaient tout déjà.
Oui, mais il ne faut pas imaginer que la sexualité néanmoins ressemblait à la nôtre, parce qu'il y avait des partages entre dominants et dominés qui n'étaient pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Les signes avant-coureurs, je ne veux pas dire que c'est Sodome et Gomorre, hein, les signes avant-coureurs se multiplient. Comment savez-vous que les paons ont cessé de faire la roue, que les pigeons se sont enfuis et que les oiseaux, le matin de la catastrophe, se sont tus?
Ça, c'est, disons, du bon sens
de naturaliste. Ça y est, vous vous prenez encore pour Pline.
Non, pas encore, mais pour un naturaliste moderne. Parce que Pline, lui, finalement, il n'avait pas compris. Il était à 30 km, il ne savait même pas qu'il y avait un volcan. Mais alors, l'éruption arrive à 1h de l'après-midi, mais les vulcanologues vous disent qu'il y a déjà eu, disons, une ouverture du cratère, enfin du volcan, disons, dans la matinée. Dans la matinée, il y a eu sûrement ce nuage très bas sur la forêt, parce que, bon, à la place du volcan, il y avait un mont très bas avec de la forêt. Et de Pompéi, on aurait remarqué tout ça, cette poussière blanche, on aurait dit de la neige, et probablement les oiseaux, ils avaient déjà commencer à sentir les tremblements, les secousses. Et j'imagine que les animaux aient perçu quelque chose déjà à l'avance, avant l'homme.
Et Rectina, revenons à Rectina, oui. Votre héroïne, elle est revenue dans sa villa d'Herculanum, et là ?
Et là, il y a quelque chose qui se passe. Elle commence bon, il y a l'éruption qui arrive. Je ne sais pas si on peut déjà parler de l'éruption. De facto, ce qui arrive exactement, c'est une heure c'est disons l'heure du repas, et comme ça, tout d'un coup, il y a une éruption, le bouchon éclate. Disons, il y a une onde de choc qui prend 24 secondes pour arriver à Pompéi, 18 pour arriver à Herculaneum. Ça brise les glaces sûrement. Il y a un petit détail qui m'a frappé. Il y a un boulanger qui se trouve dans la boulangerie. Il est à l'intérieur donc d'une maison. Il n'a pas de fenêtre, mais il sort. C'est la panique. À l'intérieur du four, il laisse des formes de pain que les archéologues vont retrouver.
Et Rectina, elle se précipite sur sa terrasse, laquelle va s'effondrer par endroits. Oui. Il y a à côté une tour de signalisation qui peut envoyer des signaux lumineux à Pline.
Oui.
Pline est prévenue. Imaginons Rectina qui est là, oui. Les bras, les mains cramponnées à sa rambarde. Pline va-t-il pouvoir la secourir?
D'après les témoignages des survivants, nous savons que les bateaux de l'amiral Pline avaient levé l'ancre vers 5 heures du soir. Ils étaient passés près d'une ville encore plus proche du volcan que Pompéi, mais n'avaient pu s'en approcher à cause des vents contraires. Cette ville s'appelait Herculanum. À la fin de l'après-midi, la plupart des habitants avaient fui la cité et s'étaient rassemblés sur la plage dans l'attente des secours. Mais Pline ne s'arrête pas.
Et oui, il ne peut pas aborder. Rectina, au-dessus de la plage, noire et noire de monde, le voit qui s'éloigne.
Il mène ses navires vers Pompéi et s'enfonce dans les ténèbres qui l'enveloppent.
Maintenez le cap ! Amiral ! Je ne vois rien ! Nous allons nous échouer !
Bon, très bien. Nous allons retourner vers la lumière.
Vers la lumière ! Mettez le cap sur Stabi !
Avec ce vent contraire, Pline ne peut rebrousser chemin. Il décide donc de suivre la côte jusqu'à la petite ville de Stabi. C'est sa seule chance de trouver refuge.
Et là, il pourra aborder et il mourra asphyxié. Rectina, pensez-vous, dites-vous, affirmez-vous, va survivre, comment le savez-vous?
Ah, c'est incroyable. Dans ce livre, je suis beaucoup de personnages, mais j'ai trouvé 7 survivants. D'habitude, Pompéi est vu comme une ville de la mort, mais il y a eu des survivants, alors j'en ai trouvé 7. Rectina est un d'entre eux. Pourquoi? Parce que le siècle dernier, il y a 2 siècles, devant une petite église, pas très loin de Pompéi, vers le sud, il y avait un grand bloc de marbre qui servait de socle pour une croix en bois. Et il y avait une inscription romaine. C'était un bloc romain. Et on a commencé à lire cette inscription. C'est une inscription faite par un esclave qui remerciait les dieux, les divinités, parce que Rectina était retournée chez elle saine et sauve.
Oui, mais attendez, des Rectina, il y en a beaucoup, j'imagine. Non.
Dans toute l'histoire romaine, on n'en connaît que trois. Une, elle est, bon, celle de Pline. Une autre qui est un peu plus tard, probablement c'est sa fille, en Espagne. Et puis il y en a une autre qui est quelques siècles après. Donc, c'est forcément, ou très probablement, Rectina qui s'est sauvée. On sait qu'elle était présente dans l'ouvrage de Pline. C'est elle qui a lancé ce signal de détresse, ce message. Et puis, on la retrouve survivante. On ne sait pas ce qui est arrivé, mais elle s'est sauvée.
Et vous imaginez que, quelques années après le désastre auquel elle a échappé, elle donne un banquet, et que c'est à l'occasion de ce banquet, entendant un son qui lui rappelle l'année 79, elle raconte. On est revenu au début du livre, on a bouclé la boucle, mais c'est un livre bourgeonnant dans lequel on peut se tailler beaucoup de chemin. Oui, Alberto Angela,
trois
jours à Pompéi.
Très important. Pompéi, ce n'est pas une ville de la mort, mais de la vie, constituée de personnes. Et c'est leur histoire que je raconte.
Chez Payot.
Exactement.
Et dans la tête au carré, dans un instant, Mathieu Bidard.
Eh bien Jean, nous allons vous inviter à dormir plus pour fortifier votre santé dans un instant.
Oh bah Pline, lui, il a été capable de dormir après que l'éruption du Vésuve a eu lieu, alors c'est dire.